Notre conférencier de ce soir, il s'agit donc de Pierre Jacome, né en 1949, ancien élève de l'École normale supérieure et agrégé de philosophie. Il a fait aussi des études, outre en France, il a fait des études aux États-Unis, à Harvard. Puis il est rentré chercheur au CNRS, où il a développé l'essentiel de sa carrière. Il est maintenant directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences cognitives, je crois que c'est à Lyon d'ailleurs. Il est spécialiste au départ de philosophie analytique et de philosophie anglo-saxonne, de philosophie de l'esprit, et puis de plus en plus de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences cognitives dans le rapport qu'elles ont à la psychologie. Il est l'auteur, puisqu'on nous demande souvent les publications, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, de un chez Gallimard, de Vienne à Cambridge, sur l'héritage du positivisme logique, un aux éditions de Minuit, sur l'empirisme logique, et un autre plus récent, il y a bien sûr une publication en anglais que je ne mentionne pas, mais un autre plus récent, « Pourquoi les choses ont-elles un sens ?» chez Odile Jacome en 1997. Je vais donc tout de suite lui laisser la parole pour nous parler de philosophie de l'esprit et sciences cognitives. Merci.
Merci bien. Je ne sais pas si vous êtes venu plus tôt pour entendre un exposé sur la philosophie de l'esprit, sur les sciences cognitives ou sur la conjonction de coordination, mais enfin, je vais parler des deux. Les sciences cognitives fédèrent des disciplines qui relèvent des sciences de la vie, comme les neurosciences, des sciences formelles comme la logique et l'intelligence artificielle, et des sciences de l'homme et de la société comme la linguistique, la philosophie, la psychologie sociale et l'anthropologie. Le mot « cognition » vient du latin « cognoscere » qui veut dire « savoir » ou « connaître » et en un certain sens, les sciences cognitives poursuivent par d'autres moyens, par des moyens scientifiques formels et expérimentaux, le projet traditionnel de ce qu'on nomme en français d'un mot formé sur une racine grecque, l'épistémologie. Les mécanismes de la connaissance peuvent-ils faire l'objet d'une connaissance scientifique? La connaissance de la connaissance peut-elle être aussi exacte, objective et impartiale que la connaissance physique des particules élémentaires, la connaissance chimique des molécules ou la connaissance biologique des cellules vivantes et de leurs constituants? Les sciences cognitives font le pari que la réponse à cette question sera oui. Alors, je vais vous montrer le plan de mon exposé. Est-ce que vous pouvez lire ? Voilà. Donc, j'ai un pointeur. Très bien. Voilà les quatre parties de ce dont je vais parler. L'étude scientifique des capacités cognitives du cerveau humain remonte au milieu des années 50. À cette époque, les sciences formelles jouèrent un rôle pilote. D'abord, grâce au progrès de la logique et des mathématiques, la construction des premiers ordinateurs capables d'accomplir des opérations numériques réhabilita sur des bases scientifiques l'idée déjà émise au XVIIe siècle par Hobbes et Leibniz, selon laquelle penser, c'est manipuler selon des règles, des symboles, dans un système formel. Ensuite, les travaux du linguiste Noam Chomsky sur les propriétés combinatoires des grammaires des langues humaines mirent en évidence le fait que savoir parler ou avoir la faculté de langage, comme disent les linguistes, c'est connaître implicitement des règles syntaxiques et que ce savoir est riche, complexe, largement inconscient, et partiellement inné. Un demi-siècle plus tard, il n'y a pas un paradigme dominant dans les sciences cognitives, il y a un archipel de programmes de recherche. Les travaux formels sur la faculté de langage continuent à proliférer, ils ont donné naissance à des recherches expérimentales en psycholinguistique sur la compréhension du langage et sur l'acquisition du langage chez le bébé humain. L'étude de l'apprentissage du langage a à son tour inspiré l'étude du développement ontogénétique des compétences du bébé humain dans les domaines de la physique naïve, de la géométrie naïve, de l'arithmétique naïve et de la psychologie naïve, et nous pourrons éventuellement revenir sur ces questions dans la discussion. Ces recherches alimentent et se nourrissent des recherches primatologiques sur les capacités cognitives des grands singes. L'exploration expérimentale des capacités humaines de raisonnement cohabite avec les recherches psychophysiques sur les limites des capacités perceptuelles humaines, et elle voisine notamment avec l'étude neuroscientifique du système visuel, de la planification et de l'exécution de l'action. Enfin, le paradigme de l'exploration neuropsychologique des doubles dissociations chez les patients cérébraux lésés a permis de progresser dans la connaissance des bases neurales des comportements visuomoteurs, des émotions, de la mémoire, de la catégorisation des objets et des compétences numériques et linguistiques. Cependant, ce foisonnement méthodologique ne doit pas détourner notre attention du fait que la discipline centrale des sciences cognitives est la psychologie. La psychologie occupe en effet l'interface entre les sciences de la vie, notamment les neurosciences, et les sciences humaines. Comme les principales sciences de la nature, la psychologie a l'ambition de fournir des explications causales. Mais comme dans les sciences humaines, et contrairement aux explications dans les principales sciences de la nature, une explication psychologique d'un comportement humain repose sur l'attribution de pensée ou de représentation mentale à un agent humain. Alors, je vais maintenant aborder le point numéro 2 de cet exposé. La psychologie a notamment pour tâche de décrire et d'expliquer les mécanismes grâce auxquels un individu forme et renouvelle sa représentation du monde, c'est-à-dire ces processus sont principalement la perception, la mémoire et le raisonnement. Dans la perception, un fait physique est la cause d'une représentation sensorielle, visuelle, auditive, olfactive, tactile, etc. La mémoire est un processus causal complexe qui consiste à stocker et puis ensuite récupérer une représentation. Raisonner, c'est transformer une représentation propositionnelle en une autre représentation propositionnelle. La psychologie n'a pas pour mission ou vocation d'expliquer tout ce qui arrive à un être humain. Il ne lui incombe pas, par exemple, d'expliquer les réactions du système immunitaire à une infection virale. Sa tâche, en général, est d'expliquer les comportements humains intentionnels. Alors, qu'est-ce qu'un comportement intentionnel? Ça, c'est la première question que nous allons aborder. Je vais prendre une série d'exemples pour essayer de... Pardon. Non, c'est exprès. Non, c'est un opaque. Je cache la fin de ma page. Je ne veux pas tout de même tout révéler, ce serait très... Bon. Donc, je vais vous donner une série d'exemples pour essayer de justifier et d'expliquer ce que j'entends par un comportement intentionnel. Si un kinésithérapeute prend ma tête entre ses mains et lui fait subir une rotation de 90 degrés vers la droite, le mouvement de ma tête fait partie du comportement du kinésithérapeute. En effet, la cause de la rotation de ma tête n'est pas dans mon cerveau, si c'est le kinésithérapeute qui fait faire une rotation de ma tête de 90 degrés, elle est dans le cerveau du kinésithérapeute. Si, en revanche, j'effectue spontanément une rotation de la tête de 90 degrés vers la droite sans l'interférence d'un kinésithérapeute, à ce moment-là, le mouvement de ma tête est quelque chose que je fais. La cause de la rotation de ma tête est alors dans mon cerveau. Un geste corporel fait partie du comportement d'un individu si sa cause se situe dans l'enveloppe corporelle de l'individu qui accomplit ce geste. Donc cela, si vous voulez, c'est le contraste entre ce que fait un individu, son comportement, et ce qui lui arrive. Et lorsque ma tête subit une rotation, fait une rotation de 90 degrés parce que, vers la droite, parce que le kinésithérapeute l'a tournée, c'est quelque chose qui m'arrive et non pas quelque chose que je fais. Mais tous les comportements d'un individu ne dépendent pas de ses représentations mentales. Sont intentionnels dans le sens qui m'intéresse, ceux qui impliquent des gestes corporels guidés par des représentations mentales. Lorsque je ronfle, j'émets des sons. Lorsque je vomis, je contracte mes muscles abdominaux. Ce sont des choses que je fais, les sons que j'émets ou la contraction de mes muscles abdominaux. Mais ni les sons que j'émets en ronflant, ni mes contractions abdominales n'ont pour cause mes croyances et mes désirs. Si, en revanche, je saisis volontairement le verre placé devant moi parce que je crois qu'il contient de l'eau, pas beaucoup, mais un petit peu, et je désire une gorgée d'eau, le mouvement de transport de ma main droite et la préhension du verre entre mes doigts font partie d'un comportement intentionnel. Eh bien, il incombe à la psychologie d'expliquer les comportements humains intentionnels, c'est-à-dire ceux des gestes corporels d'un individu qui sont produits par ses croyances et ses désirs. Tout système cognitif qui est susceptible d'agir doit donc être capable de former des représentations mentales de deux sortes, des désirs et des croyances. Un désir est une représentation d'un but, c'est-à-dire d'un état de choses possible ou impossible, mais non réalisé. Et l'action est destinée à modifier le monde tel qu'il est pour le mettre en conformité avec le but ou pour assouvir le désir. À la différence des désirs et des buts, toute croyance a pour fonction de représenter un fait ou le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être. La première question soulevée par l'ambition scientifique de la psychologie est donc la suivante. Les pensées ou les représentations mentales peuvent-elles entrer dans des relations causales ? Une représentation mentale peut-elle avoir une cause physique et des effets physiques ? Parce que je souscris au matérialisme, j'incline à répondre positivement à cette question. J'admets en effet que seule une chose physique peut avoir une cause et des effets physiques. Je rejette donc le dualisme cartésien entre les choses matérielles et les choses mentales immatérielles. Je suppose que les choses mentales sont des choses physiques, plus précisément des choses neurologiques. Une représentation mentale est un état physique du cerveau d'un individu. Quant aux représentations non mentales, par exemple les photographies, les cartes géographiques ou les énoncés linguistiques, ce sont des artefacts. Elles aussi, les représentations non mentales, possèdent des propriétés physiques et chimiques. Mais, à la différence des artefacts, les représentations mentales ont de surcroît des propriétés biologiques ou neurophysiologiques. Alors, si une représentation mentale est un état cérébral d'un individu, alors elle peut avoir des causes et des effets physiques. Outre des propriétés physiques, chimiques et neurophysiologiques, toute représentation mentale a aussi un contenu, une propriété sémantique, comme disent les philosophes, ou comme encore le disent les philosophes, l'intentionnalité. Intentionnalité, ça veut simplement dire avoir un contenu ou une propriété sémantique. Alors, je distinguerai trois sortes de représentations mentales d'un fait. Les représentations que je nomme motrices, les représentations perceptuelles et les représentations conceptuelles. Pendant la préparation et l'exécution d'une action, les mouvements dirigés vers des objets, comme par exemple le mouvement de préhension d'un verre, sont visuellement guidés par des représentations que je qualifie de motrices. Pendant le transport de la main au voisinage de l'objet, ce que les spécialistes des neurosciences du système visuel nomment la voie dorsale du système visuel, qui relie le cortex visuel primaire au cortex moteur par l'intermédiaire du lobe pariétal, fournit une analyse qu'on pourrait qualifier de pragmatique des caractéristiques visuomotrices de la cible, par exemple le verre. Dans un percept visuel que j'oppose à la représentation motrice de l'objet, dans un percept visuel, c'est-à-dire dans une représentation perceptuelle pour moi, différents attributs visuels de l'objet, sa forme, sa couleur, sa texture, par exemple, sont liés, comme disent les spécialistes des neurosciences, ou unifiés. Un percept visuel unifie différents attributs visuels de l'objet. Être visuellement conscient d'un objet, c'est être simultanément conscient de sa couleur, de sa forme et de sa texture, même si, comme nous le montrent les neurosciences cognitives, ces différents attributs visuels sont traités par des aires visuelles séparées, c'est-à-dire par des régions distinctes du système visuel. Mais pour saisir efficacement un objet, ou pour attraper un objet au vol, par exemple, il n'est pas nécessaire d'être conscient de tous les attributs visuels de l'objet. Et donc, dans ce que j'appelle une représentation motrice de l'objet, l'objet est, pourrait-on dire, visuellement analysé comme un but de l'appréhension, ou pour parler comme le psychologue James Gibson, comme une affordance. Et si vous voulez, dans la discussion, peut-être nous pourrons revenir plus en détail sur les raisons pour lesquelles je propose d'analyser les représentations motrices comme je le fais. Maintenant, je dirais que les représentations motrices sont donc au service de l'action. Ce que j'appelle les représentations perceptuelles sont au service de la conceptualisation. Vous percevez le timbre de la sonnette de votre appartement, eh bien vous en concluez automatiquement qu'une personne vous rend visite. Vous percevez des nuages dans le ciel et vous en concluez qu'il va pleuvoir. Vous êtes assis au volant de votre automobile et vous percevez visuellement la position de l'aiguille de votre jauge à essence sur l'écran du compteur. Vous en concluez que votre réservoir à essence situé à l'arrière de votre véhicule et que vous ne voyez pas est presque vide. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans tous ces cas, vous avez transformé une représentation perceptuelle ou sensorielle d'un stimulus, stimulus acoustique ou stimulus visuel, en une représentation conceptuelle, je propose d'appeler ça une représentation conceptuelle, d'un état de choses que vous ne percevez pas. Vous ne percevez pas le fait qu'il va pleuvoir. Vous ne percevez pas le fait qu'une personne est présente à votre porte. Vous le déduisez, vous l'inférez d'une représentation perceptuelle. Vous ne percevez pas directement le réservoir, vous inférez que le réservoir est vide ou à moitié vide à partir d'une représentation perceptuelle de l'aiguille sur le compteur de votre réservoir. Comme je l'ai dit, une représentation non mentale est un artefact. Outre ses propriétés physiques et chimiques, elle possède aussi l'intentionnalité, un contenu ou une propriété sémantique. Alors, la question se pose immédiatement, c'est la question suivante. Le contenu d'une représentation non mentale, le contenu d'un énoncé, le contenu d'une carte géographique, d'un panneau routier ou d'une photographie, ce contenu est-il, comme je voudrais le dire, une propriété objective de la représentation ? Un artefact possède-t-il un contenu indépendant de toute interprétation ? À mon avis, la réponse à cette question est non. Une occurrence, par exemple, du mot français « chat », écrit à l'encre noire sur une page blanche, possède des propriétés physiques et chimiques. Vous pouvez photographier cette occurrence du mot « chat » écrit en noir sur une page blanche. Bien. Mais cette occurrence du mot « chat » n'exprime le concept de chat ou ne sert à désigner un chat réel, un chat imaginaire ou une statue de chat, ça c'est le contenu, que parce que des êtres humains francophones se servent de ce symbole pour exprimer leurs pensées ou interpréter celles des autres. La propriété sémantique d'une représentation non mentale, un mot par exemple, un artefact, un énoncé, une inscription d'un mot, est ce que j'appellerais une propriété d'emprunt. Mais qu'en est-il du contenu d'une représentation mentale ? Eh bien, à cette question, je propose de répondre en adoptant la distinction entre l'intentionnalité dite primitive et l'intentionnalité dite dérivée. l'intentionnalité secondaire des artefacts, par exemple des textes, des énoncés, des panneaux routiers, des cartes géographiques ou des photographies, dépend de l'intentionnalité fondamentale des pensées, c'est-à-dire pour moi des états cérébraux, des êtres humains qui fabriquent ces artefacts et s'en servent pour communiquer. Je suppose donc que, faute d'une circularité vicieuse, une représentation mentale dans le cerveau d'un membre de l'espèce Homo sapiens sapiens ne peut pas elle-même tirer son contenu du contenu de la pensée d'un interprète, à la différence du contenu d'un artefact qui, lui, tient son contenu d'une pensée. Le contenu d'une pensée ne peut pas dériver du contenu d'une autre pensée. Ce n'est pas parce que vous interprétez ma pensée, ce n'est pas vous qui conférez à ma pensée un contenu ou une représentation ou une propriété sémantique. Je souscris donc à une doctrine que j'appellerais le réalisme intentionnel. Je tiens les propriétés sémantiques pour des propriétés objectives et non pas pour des propriétés d'emprunt des représentations mentales, à la différence des propriétés sémantiques des artefacts comme les mots ou les photographies qui tirent leur contenu du contenu des pensées. Alors, supposons que ce soit à peu près clair. Je crois que c'est pas, enfin, c'est tout à fait discutable, évidemment, mais je crois que c'est clair. Alors, je propose de faire une distinction entre ce qu'on peut appeler les croyances d'un individu. Rappelez-vous, j'ai parlé des désirs et des croyances comme deux sortes d'états mentaux nécessaires pour expliquer l'action. La représentation d'un but et la représentation d'un fait. Un désir, c'est la représentation d'un but. Une croyance, c'est la représentation d'un fait. Alors, parmi les croyances, maintenant, oublions les désirs, parmi les croyances, je veux distinguer ce que j'appelle les croyances élémentaires ou intuitives, là, des croyances que j'appelle les croyances culturelles ou réflexives. Les croyances que j'appelle intuitives, celles-ci, sont des états qui résultent de mécanismes cognitifs automatiques de base, comme la perception, la mémoire et certains processus inférentiels élémentaires, dont j'ai déjà parlé quand j'ai dit que vous déduisez, vous formez une croyance concernant le fait qu'il va pleuvoir, automatiquement à partir du fait que vous percevez les nuages dans le ciel. Ça, c'est un exemple de croyance. Votre croyance qu'il va pleuvoir est un exemple de croyance élémentaire ou intuitive. D'accord ? En revanche, j'ai envie de dire que seule une créature disposant du langage et de capacités réflexives, je crois que le langage et les capacités réflexives ne sont pas requises pour former les croyances intuitives ou élémentaires, comme par exemple la croyance qu'il va pleuvoir à partir de la perception des nuages. En revanche, pour former les croyances que j'appelle culturelles, il faut le langage, me semble-t-il, et des capacités réflexives. Et ces croyances que j'appelle culturelles consistent par exemple à croire, comme on dit volontiers par exemple, au mystère de la Sainte Trinité, les croyances religieuses, croire les croyances politiques, croire que la démocratie est le moins mauvais de tous les régimes politiques, ou croire les croyances mathématiques, croire que l'ensemble des nombres réels à la puissance du continu, ces croyances-là, ces trois exemples, sont des exemples de croyances culturelles. Et mon pari, si j'ose dire, c'est que vous ne pouvez pas former des croyances culturelles comme celles que je viens de citer, par opposition aux croyances intuitives et élémentaires, si vous n'avez pas le langage et des capacités réflexives. Donc, la formation des croyances culturelles dépend crucialement de la communication verbale entre les membres de l'espèce humaine et pas seulement de la perception, de la mémoire et de certaines capacités inférentielles élémentaires. Alors, pour simplifier pour le reste de la discussion, je propose de dire que les faits représentés conceptuellement, car il s'agit de faits conceptuellement représentés, voyez, conceptuels, croyances, les faits représentés conceptuellement par les croyances intuitives sont des faits perceptibles. Je ne dis pas que, quand vous, par exemple, vous inférez qu'il va pleuvoir à partir de votre perception des nuages, vous formez une croyance sur un état de choses que vous ne percevez pas directement, mais que vous pourriez percevoir. Donc, c'est un état de choses perceptible. En revanche, votre croyance que, dans le mystère de la Sainte Trinité, votre croyance que l'ensemble des nombres réels à la puissance du continu, les croyances culturelles de ce genre, ou votre croyance que la démocratie est le moins mauvais de tous les régimes politiques, c'est une croyance qui ne porte pas sur un fait ou un état de choses perceptible. Donc voilà, voilà comment je propose de distinguer les croyances culturelles des croyances intuitives. Alors, aussitôt qu'un être humain forme une croyance élémentaire ou intuitive, les connexions synaptiques entre des milliards de neurones enfermés dans une boîte de la taille d'un ballon de football lui permettent de se représenter un événement qu'il ne perçoit pas, mais qu'il a inféré, et qui peut occuper une position spatio-temporelle très éloignée de lui. Alors, ce que les philosophes appellent naturaliser l'intentionnalité, dont je vais beaucoup parler, eh bien, c'est quelque chose qui consiste à essayer de combler le hiatus, le fossé, entre le sémantique ou la sémanticité et le non-sémantique, entre les choses qui ont l'intentionnalité primitive, qui ont un contenu, qui ont des propriétés sémantiques, et les choses qui sont dépourvues de contenu, dépourvues d'intentionnalité. Alors, cette tâche est double. Ah, je n'y arrive pas. Bien. Cette tâche est double. La première tâche, je la qualifierais d'un mot un peu barbare, de tâche psychosémantique, ou encore pire, de tâche psychotectonique. La question, que je nomme de manière barbare, psychosémantique ou psychotectonique, est de savoir comment construire un dispositif représentationnel, c'est-à-dire un dispositif physique doué de propriétés sémantiques. Comment une structure nerveuse douée de propriétés physiques, chimiques et biologiques peut-elle de surcroît exemplifier une propriété sémantique ? Quelle propriété non sémantique d'une structure cérébrale confère à celle-ci son contenu mental ou son intentionnalité primitive ? Le but du programme psychosémantique est, si vous voulez, de mettre au point une recette de fabrication d'un dispositif représentationnel, de représentation doué d'intentionnalité, mais dans la recette ne doivent figurer que des ingrédients non sémantiques. C'est la règle du jeu. Il faut trouver des ingrédients qui eux-mêmes ne soient pas sémantiques. Alors maintenant, un petit mot sur la deuxième tâche. Si un dispositif physique complexe, un cerveau humain, fabrique des structures douées de contenu, je suppose que c'est assez lourd, si vous voulez, c'est une charge lourde de fabriquer des structures capables de représenter, d'avoir une propriété sémantique. Donc, si un dispositif physique complexe se donne le mal, ou si l'évolution, nous allons le voir, s'est donné le mal de donner naissance à des systèmes capables de former des représentations, à mon avis, ce contenu-là doit servir à quelque chose. Pour un réaliste, et j'ai dit que je souscrivais à ce que j'appelle le réalisme intentionnel, c'est-à-dire, je pense que le contenu est une propriété objective de certaines structures physiques, à savoir les états cérébraux. Pour donc un réaliste, le test de la réalité d'une propriété en général, et dans le cas des propriétés sémantiques en particulier, le test de la réalité d'une propriété, c'est son efficacité causale. C'est qu'il serve à quelque chose, qu'il serve à expliquer quelque chose. Donc la seconde tâche du programme naturaliste consiste à démontrer que le contenu des représentations mentales détient une efficacité causale ou qu'il contribue à expliquer causalement certains aspects du comportement intentionnel des êtres humains, et vous vous souvenez que j'ai parlé de ce que c'était qu'un comportement intentionnel au début de cet exposé. Et donc, la suite de l'exposé va toucher ces deux points. C'est ce que j'ai appelé ici, de manière un peu... Alors, le programme... D'une part, je vais maintenant aborder la troisième partie de l'exposé, le programme psychosémantique, et le quatrième point de mon exposé à ce titre un peu attireur, enfin, attracteur, comment dire, un peu... commercial, meurt-on pour une idée. Alors, je suis donc dans le point numéro 3, le programme psychosémantique, c'est-à-dire essayer de combler le hiatus entre les choses qui ont un contenu et les choses qui n'en ont pas, essayer de esquisser une recette de fabrication d'un dispositif représentationnel tel que dans la recette ne figurent que des ingrédients non sémantiques. Alors, à mon avis, le programme le plus prometteur pour réaliser la première étape du programme psychosémantique est ce que j'appellerais la sémantique informationnelle. Ce n'est pas très joli, mais c'est comme ça. Je résume donc la tâche du programme psychosémantique ou psychotectonique, mettre au point une recette, comme je l'ai dit, Et la première étape, le paradigme en tout cas le plus prometteur pour accomplir la première étape de ce programme, selon moi, est la sémantique informationnelle dont le principal artisan contemporain est un philosophe qui s'appelle Fred Dretske. Alors, une empreinte digitale humaine imprimée à l'encre noire sur une page blanche véhicule une information sur l'identité de la personne à qui appartient l'index. Le nombre d'anneaux dans le tronc d'un arbre véhicule une information sur l'âge de l'arbre. La radiographie d'un fémur fracturé véhicule une information sur la condition du fémur. Lorsqu'elle est fiable, la jauge à essence, encore elle, d'une automobile véhicule une information sur la quantité de carburant dans le réservoir de l'automobile. L'aiguille d'une boussole véhicule une information sur la direction du nord géomagnétique. On trouve beaucoup d'exemples de ce que ça veut dire qu'un signal véhicule une information sur quelque chose ou est un indicateur fiable de quelque chose. En général, je dirais que, voilà la définition que je vous propose, en général, un signal véhicule une information sur une propriété à condition qu'il existe ce que les philosophes appellent une corrélation nomique, ça veut dire simplement une loi naturelle, et les philosophes des sciences se chargent d'expliquer ce que c'est qu'une loi. Les scientifiques découvrent les lois et les philosophes essayent d'énoncer les conditions auxquelles obéissent les lois en général. Alors, il faut qu'il existe donc une loi naturelle entre ce que j'appellerais les exemplifications de la propriété et l'état du signal. C'est très abstrait, je vais donner tout de suite un exemple. La longueur d'une barre de métal covarie selon une loi naturelle avec les variations de la température environnante. La longueur de la barre de métal véhicule donc une information sur la température. En un mot, la relation informationnelle entre la barre de métal, ou plutôt la longueur de la barre de métal, et la température, est la relation informationnelle est la converse de la relation de loi naturelle entre la température et la longueur de la barre de métal. S'il y a une loi naturelle qui fait que la longueur de la barre de métal covarie selon les écarts de température, alors la longueur de la barre de métal est un indicateur fiable de la température, ou alors la longueur de la barre de métal véhicule une information sur la température ambiante. Vous voyez donc que la notion d'indicateur fiable, l'idée d'un signal véhiculant une information, peut être conceptualisée comme la converse de la relation de loi entre une certaine propriété qui est exemplifiée dans l'environnement, la température, et l'état d'un certain objet physique ou d'un certain signal physique, la longueur de la barre de métal. J'espère que c'est clair. Alors, les organes sensoriels d'un être humain, c'est ça qui m'intéresse, la barre de métal ne m'intéresse pas, je prends simplement ça comme un exemple simple, mais les organes sensoriels d'un être humain véhiculent une information sur le monde qu'ils transmettent aux aires corticales primaires. Par exemple, les cônes et les bâtonnets situés sur la rétine de l'œil d'un primate transmettent des signaux au cortex visuel primaire qui relayent cette information aux aires visuelles supérieures. Le tympan et le bulbe olfactif véhiculent une information sur d'autres grandeurs physiques exemplifiées dans l'environnement de l'individu. La psychophysique humaine, c'est l'étude des corrélations nomiques, des lois, entre certains paramètres physiques de l'environnement et les récepteurs sensoriels du cerveau humain. Les chercheurs en neurosciences pratiquent, en le sachant ou en ne le sachant pas, la sémantique informationnelle lorsqu'ils disent de tels neurones sensoriels situés dans une aire du système visuel qu'ils déchargent en présence d'un stimulus visuel ou qu'il code sa présence. Ça, c'est le jargon des neurosciences. Eh bien, c'est la sémantique informationnelle. La sémantique informationnelle est donc une sémantique, si vous voulez, de la covariation ou des corrélations nomiques. C'est la converse de la relation de loi. Elle sert de base au projet psychosémantique qui m'intéresse, mais elle ne peut à elle seule suffire à accomplir ce projet. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce qu'il y a un écart entre le contenu informationnel et le contenu d'une représentation, en particulier d'une représentation mentale. Quel est l'écart entre le contenu informationnel et le contenu d'une représentation ? Reprenons notre exemple de la barre de métal qui a un contenu informationnel. La dilatation et la contraction d'une barre métallique véhiculent une information fiable sur la température ambiante parce que sa longueur covarie selon une loi avec les variations de la température. Une empreinte d'un pas ou une empreinte d'un doigt est un indicateur fiable de sa cause. La pression du doigt est la cause de l'empreinte. Mais un indicateur fiable est un indice, au sens où Peirce, le philosophe américain, a employé ce terme, est un indice. Ça n'est pas un symbole. Mais, si vous voulez, un symbole, pas un indice, a un véritable contenu sémantique. Donc le problème, c'est quelle est la différence entre un indice et un symbole? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à un indice pour le transformer en symbole? À la différence d'une simple barre métallique, un thermomètre à mercure peut représenter la température. Pourquoi peut-il représenter la température alors qu'une barre de métal ne peut pas représenter la température? Elle peut simplement indiquer la température ou véhiculer une information. Quelle est la différence? Eh bien, la différence entre le thermomètre à mercure et la barre de métal, c'est que le thermomètre à mercure peut dysfonctionner. Un thermomètre à mercure, c'est un petit appareil très simple que vous connaissez évidemment tous, qui contient une pipette en verre remplie de mercure. Si la pipette se fend, la covariation entre la hauteur de la colonne de mercure et la température peut être interrompue. Un thermomètre, pour parler vite, peut commettre des erreurs, pas une barre métallique. Comme l'a dit le philosophe Jerry Fodor, méprise, erreur et représentation sont les deux faces d'une seule et même médaille. Faute de pouvoir se méprendre, un dispositif matériel ne peut rien représenter. C'est un peu paradoxal, mais c'est, si vous voulez, l'idée que un système physique, un dispositif, ne peut représenter les choses par opposition à véhiculer une information sur les choses qu'à condition qu'il puisse commettre des erreurs. Faire une erreur, c'est dysfonctionner. C'est donc parce qu'un thermomètre à mercure peut dysfonctionner qu'il peut représenter la température à la différence d'une simple barre métallique. Dire d'un objet physique, un artefact ou un organe ou un organisme, qu'il a un défaut, qu'il est endommagé, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il souffre de malformations, c'est supposer qu'il a une fonction. Ça n'a pas de sens de parler de dysfonctionnement si le système qui est dit dysfonctionné n'a pas de fonction. C'est parce qu'il détient une fonction qu'il peut dysfonctionner. Un signal physique représente donc le fait qu'une propriété, par exemple la température, est exemplifiée dans l'environnement, c'est le cas par exemple du thermomètre, s'il a la fonction d'indiquer la température. Donc, la définition la plus simple que je vous propose de ce que c'est qu'une représentation, c'est un dispositif physique qui a une fonction, qui a pour fonction de véhiculer une information. Évidemment, un thermomètre est un artefact, au sens où j'ai parlé tout à l'heure des artefacts, si c'est une représentation ou un système de représentation, il a été fabriqué par l'homme. S'il a la fonction d'indiquer la température, il tire cette fonction des plans, des intentions, des croyances d'un ingénieur humain qui en a évidemment agencé les parties. Alors, ce qui est vrai des représentations non mentales, des artefacts, est vrai du contenu des représentations mentales. Par conséquent, à la sémantique informationnelle, à mon avis, le programme psychosémantique doit ajouter ce que la philosophe Ruth Millikan a nommé une composante biosémantique. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment expliquer dans ces termes le contenu des représentations mentales qui sont les représentations primitives. Une structure nerveuse dans un cerveau humain ne peut représenter la présence d'une plante ou d'un animal ou d'un minéral, si vous voulez, que si elle a la fonction d'indiquer cette présence. Le sens pertinent du mot « fonction » ici est le sens biologique du mot. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction au sens biologique, en général? Considérons un cœur de mammifère. La fonction d'un cœur de mammifère est de pomper le sang. Dire du cœur d'un mammifère d'aujourd'hui qu'il a pour fonction de pomper le sang, c'est dire que le fait que les ancêtres de ce mammifère avaient un cœur capable de pomper leur sang a contribué à leur survie dans la compétition entre eux et des créatures qui n'avaient pas de cœur ou qui avaient un proto-cœur moins efficace que le leur. Alors, un cœur produit évidemment différents effets, je n'en citerai que deux. Il produit périodiquement un son mat, et lorsqu'il est relié à un électrocardiogramme, il peut tracer des lignes sur une feuille de papier. Mais sa fonction n'est pas de produire un son mat, ni de tracer des lignes sur un électrocardiogramme, sa fonction est de pomper le sang. En général, un mécanisme a pour fonction celui ou ceux de ses effets qui contribuent à expliquer la prolifération des ancêtres des créatures contenant ce mécanisme. Toute fonction résulte d'un processus physique de sélection. Tout processus de sélection est un processus historique, donc toute fonction résulte d'un processus historique. Alors, ce processus de sélection peut être un processus intentionnel ou un processus non intentionnel. Dans un processus de sélection intentionnel, un tri est opéré par un agent humain doué de croyances et d'intentions. Un artefact, comme je l'ai dit, tire sa fonction d'un processus de sélection intentionnel. Le paradigme du processus de sélection non intentionnel est la sélection naturelle, imaginée pour la première fois par Darwin pour expliquer l'évolution phylogénétique des espèces vivantes. Celle-ci, la sélection naturelle, opère un tri, mais à la différence des processus de sélection intentionnels, la sélection naturelle opère un tri sans qu'aucun agent intentionnel porte la responsabilité du tri. Alors, je dis que la fonction d'un cœur est de pomper le sang, je dirais que la fonction d'un organe sensoriel, comme le système visuel, par exemple, est de présenter une information fiable sur des faits perçus au centre cognitif supérieur ou au mécanisme de formation de croyance d'un être humain. Les mécanismes de formation de croyance d'un être humain ont à leur tour pour fonction de tirer des conclusions conceptuelles véridiques portant sur des faits non perçus de l'environnement à partir des représentations sensorielles ou perceptuelles de faits ou d'états de choses perçus. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la différence entre les représentations sensorielles ou perceptuelles et les représentations conceptuelles. Rappelez-vous, je perçois les nuages et je conclus qu'il va pleuvoir. Dans l'espèce humaine, la formation et la transmission des croyances que j'ai appelées culturelles dépendent, comme je l'ai déjà dit, du langage. Donc, les mécanismes de formation des croyances chez l'être humain résultent partiellement de l'apprentissage du langage. Comme l'évolution phylogénétique, l'évolution des espèces, l'apprentissage, notamment l'apprentissage d'une langue, du langage, est un processus non intentionnel de sélection. Mais c'est un processus non pas phylogénétique, c'est un processus ontogénétique, un processus de développement dans le cours de l'histoire de l'individu et pas dans le cours de l'histoire de l'espèce à laquelle appartient l'individu. Les entités non biologiques répertoriées par la physique et la chimie et qui ne résultent pas d'un processus de sélection sont dénuées de fonction, à mon avis. Les physiciens et les chimistes ne sont peut-être pas d'accord. Si une planète du système solaire s'arrêtait de graviter autour du Soleil, elle cesserait d'être une planète. Une planète n'a pas de fonction. Elle est définie par la relation gravitationnelle qui l'unit à un Soleil. Mais elle n'a pas de fonction. Si une molécule perd l'un de ses atomes, elle se dissout et se transforme en une autre molécule. Bien. Mais si une artériosclérose perturbe le fonctionnement normal d'un cœur de mammifère, à mon avis, le muscle cardiaque situé dans la cavité thoracique du mammifère n'en demeure pas moins un cœur. Un cœur de mammifère qui ne pompe pas convenablement le sang, à la différence d'un corps qui ne gravite plus autour du soleil, un cœur de mammifère qui ne pompe plus le sang n'en a pas moins pour fonction de pomper le sang. C'est sa fonction. Il ne remplit plus sa fonction, mais c'est sa fonction. Un cœur qui ne pompe pas le sang ne fait pas ce qu'il doit ou ce qu'il est supposé faire. À mon avis, pour résumer ma pensée ici, je dirais que, quoique les normes biologiques, les normes, pas adjectif énorme, mais les normes biologiques, ne soient pas des normes éthiques ou morales, la notion de fonction biologique n'en est pas moins une notion normative élémentaire. Et c'est ce qui, je crois, différencie, disons, les propriétés biologiques des êtres vivants des propriétés physico-chimiques des êtres vivants ou des êtres non vivants, mais les propriétés physico-chimiques pour lesquelles il n'y a pas de fonction. La fonction d'un organe sensoriel est de présenter une information fiable sur des faits perçus. Mais comme le montre l'étude des illusions visuelles, le système visuel humain commet des erreurs systématiques. C'est pour ça que la notion de norme est très importante pour notre sujet. La fonction des mécanismes de formation des croyances élémentaires ou intuitives est de tirer des conclusions conceptuelles véridiques sur des faits non perçus à partir de représentations sensorielles de faits perçus. Mais si la fonction d'un mécanisme est de former des représentations véridiques, et si ce mécanisme forme une représentation fausse, erronée, alors tout simplement il ne remplit pas sa fonction. Un mécanisme peut former des représentations fausses même s'il a pour fonction de former des représentations véridiques. Exactement de la même manière qu'un cœur peut dysfonctionner, sa fonction n'en est pas, peut ne pas pomper le sang convenablement, sa fonction n'en est pas moins de pomper le sang. La vérité et la fausseté, dans cette façon de comprendre les choses, sont des propriétés normatives d'une représentation, comme l'a montré le philosophe anglais du XVIIIe siècle David Hume, et il est très célèbre notamment pour cette démonstration. On ne peut pas dériver une norme d'un fait ou d'un état de choses, mais si la normativité des fonctions cognitives, par exemple des mécanismes de formation des croyances, si la normativité des fonctions cognitives est un cas particulier de la normativité des fonctions biologiques, alors peut-être peut-on dériver une norme cognitive à partir d'une norme biologique. Selon ma recette psychosémantique favorite, représenter une propriété, comme je l'ai dit, c'est avoir pour fonction de véhiculer une information sur cette propriété. Cette recette s'applique au système visuel d'un batracien, la grenouille de l'espèce Rana pipiens. Les neurones sensoriels du système visuel de la grenouille sont coordonnés à des neurones moteurs. Le vol d'une mouche peut provoquer la décharge des neurones sensoriels du système visuel, qui à leur tour provoque la décharge des neurones moteurs, qui commandent à la fois le mouvement des pattes de la grenouille et le mouvement de sa langue. Mais il se trouve que la grenouille gobe aussi des boulettes de plomb en mouvement. Que représente donc la décharge des neurones sensoriels du système visuel de la grenouille ? Comme le système visuel de la grenouille ne discrimine pas le vol d'une mouche du tir d'une boulette de plomb, je conclus que la décharge des neurones sensoriels du système visuel de la grenouille représente le mouvement d'une tache noirâtre. Évidemment, je concède que ce qui a contribué à la prolifération des ancêtres des membres actuels de l'espèce des rainettes, c'est la capture des mouches, pas la capture des boulettes de plomb. Et je conclus que dans le cas de la rainette, ce qui a été sélectionné au cours de l'évolution phylogénétique, c'est la coordination entre un système visuel capable de covarier avec les mouvements de taches noirâtres et un système moteur capable de mouvements de capture dans un environnement dans lequel, assez souvent, le mouvement des taches noirâtres coïncidait avec le vol d'une mouche. Alors j'arrive à la quatrième partie de mon papier, qui est « Meurt-on pour une idée ?» C'est joli. Eh bien, en fait, par ce titre un peu alléchant, en fait, j'entends le second volet de mon programme, du programme de la naturalisation de l'intentionnalité, qui est lui-même une conséquence de ce que j'appelle le réalisme intentionnel. En fait, le problème est le suivant. Si une représentation mentale est la cause d'un effet physique, un geste corporel, le fait que cette représentation a un contenu contribue-t-il à la production de son effet ? Si une cause a un contenu ou une propriété sémantique, son contenu est-il l'une des propriétés causalement efficaces dans le processus par lequel la cause produit son effet ? J'évoquerai brièvement deux exemples qui expliquent en fait le problème réel et qui suggèrent que toutes les propriétés d'une cause ne sont pas également causalement efficaces dans le processus par lequel la cause produit son effet. En bref, ces exemples montrent que si vous voulez, ce que j'appelle l'efficacité causale d'une cause, l'efficacité causale n'est pas équitablement distribuée parmi les propriétés d'une cause. Et ces exemples jettent aussi le doute sur l'efficacité causale du sens ou du contenu. Premier exemple. Imaginez qu'une cantatrice, la Callas, chante un air de la Traviata dans une église. En émettant un son aigu, elle brise l'un des vitraux de l'église. Supposons que le son émis par la Callas est un sens. Ce son a le sens du mot italien choisi par le compositeur de la Traviata, Giuseppe Verdi, je ne sais lequel. L'émission du son est donc la cause du fait que le verre du vitrail s'est brisé. Question. Le sens du son est-il l'une des propriétés causalement efficaces du son dans le processus au cours duquel le verre a été brisé ? Intuitivement, la réponse est non. La propriété acoustique du son, non sa propriété sémantique, est causalement efficace dans ce processus. Il existe en effet une loi causale reliant la fragilité du verre à la propriété acoustique du son. Mais il n'existe pas de loi causale reliant la fragilité du verre à la propriété sémantique du son. Deuxième exemple. Un microphone comme ça, est un transducteur électroacoustique qui transforme l'énergie des ondes acoustiques en énergie électrique. Un microphone contient souvent une membrane sensible aux vibrations du champ acoustique. Cette membrane joue le même rôle que le tympan dans le système auditif humain. Supposez que j'ordonne à la membrane du microphone électroacoustique située là, ici à gauche, de vibrer en disant à la membrane « membrane vibre » en français. La production de l'onde sonore provoque causalement la vibration de la membrane et la membrane obéit. Évidemment, mon énoncé du verbe « vibre » a un sens, mais la membrane n'a pas compris le sens de l'énoncé. Celui-ci n'a pas fait vibrer la membrane en vertu de son sens. Si on avait ordonné, si j'avais ordonné à la membrane de ne pas vibrer en prononçant la phrase « ne vibre pas », qui est la négation de la phrase « vibre », la membrane aurait quand même vibré, comme vous le dites. Ça prouve qu'elle ne comprend pas la différence entre une phrase et sa négation. Ce n'est pas bien. Alors, l'énoncé d'un symbole linguistique concret a conjointement des propriétés physiques et un sens. Il peut avoir des effets physiques, mais son sens ne contribue en rien à la production de ces effets. C'est ça le problème qui m'intéresse. À la différence des mots, les idées possèdent l'intentionnalité primitive, pour reprendre le jargon de tout à l'heure. Les mots n'ont pas l'intentionnalité primitive, mais les idées, oui. On dit souvent, les hommes peuvent mourir pour leurs idées. Si c'est vrai, comme je le crois, alors le contenu d'une idée peut être causalement efficace. Si les idées pour lesquelles on meurt sont ce que j'ai appelé des croyances culturelles, et si leur contenu peut être causalement efficace, a fortiori, le contenu d'une croyance élémentaire ou intuitive doit aussi pouvoir être causalement efficace. Alors, le nœud du problème qui m'intéresse, si vous voulez, si je retrouve le transparent, ce qui n'est pas sûr, le nœud du problème qui m'intéresse, mais ça n'a pas d'importance, réside dans une contradiction. D'une part, la relation entre une cause et son effet est une relation locale. Mais d'autre part, si on adopte la conception psychosémantique que j'ai recommandée, alors le contenu d'une représentation s'avère être une propriété historique et extrinsèque d'une structure nerveuse. Le contenu mental est une propriété extrinsèque d'un état cérébral car il dépend de corrélations psychophysiques entre le cerveau humain et des paramètres exemplifiés dans l'environnement. C'est une propriété historique parce qu'il dépend conjointement de la phylogénèse qui a produit le cerveau des membres de l'espèce humaine et de l'histoire ontogénétique de chaque individu. Comme le démontreront deux exemples non sémantiques, les propriétés causalement efficaces d'une cause sont ses propriétés physiques et chimiques intrinsèques et non ses propriétés historiques et extrinsèques. Premier exemple non sémantique. Imaginons deux objets physiques, physiquement et chimiquement indiscernables l'un de l'autre. Imaginons que l'un soit un tableau authentique de Vermeer de Delft et l'autre une copie. Si ces deux objets sont physiquement indiscernables, alors une photographie de l'un sera indiscernable d'une photographie de l'autre. Aussi perfectionné soit-il, aucun appareil photographique ne pourra discerner la moindre différence entre la trajectoire des photons réfléchis par ces deux tableaux, mais quoi qu'ils soient physiquement et intrinsèquement indistinguables, supposons-le, ils ne sont quand même pas identiques, surtout ils n'ont pas la même valeur esthétique. L'un est une œuvre authentique et l'autre une copie. Ce qui confère son authenticité à l'un des deux, c'est qu'il a été en relation historique avec la main et le cerveau de Vermeer et pas l'autre. L'authenticité, qui est donc une propriété historique et extrinsèque d'un tableau, s'avère causalement inefficace dans le processus de causal de reproduction photographique qui ne peut pas discerner l'authenticité puisqu'il ne peut pas discriminer ces deux objets puisque du point de vue de la réflexion ou du réfléchissement des photons, ces deux objets sont indiscernables. Deuxième exemple non sémantique qui atteste du fait que les propriétés historiques extrinsèques d'une cause ne sont pas efficaces dans le processus par lequel la cause produit son effet, soit un distributeur automatique de boissons comme il y en a dans toutes les institutions modernes, qui délivre une boisson chaque fois qu'est insérée une pièce de 5 francs français dans une fente de ce système. L'insertion de la pièce provoque la chute d'une canette, par exemple d'un Tropicana, d'un Coca-Cola. Une pièce de 5 francs a des propriétés physiques intrinsèques, elle a une composition chimique, une densité, une masse, une forme caractéristique que j'appelle propriété intrinsèque. Elle a aussi une propriété historique et extrinsèque dans le sens important qui pour moi. Notamment, c'est sa valeur monétaire. La propriété extrinsèque est sa valeur monétaire. Elle détient sa valeur monétaire, cette pièce de 5 francs, du fait que des agents humains travaillant pour la Banque de France ont imprimé sur ces deux faces une effigie. Eh bien, à condition qu'elle exemplifie les propriétés physiques intrinsèques adéquates, l'insertion d'une fausse pièce de 5 francs qui n'a pas été, sur laquelle n'a pas été imprimée par les agents de la Banque de France la bonne effigie, l'insertion d'une telle fausse pièce de 5 francs dans le distributeur automatique provoquerait la chute d'une canette. Manifestement, dans le processus par lequel l'insertion d'une authentique pièce de 5 francs provoque la chute d'une canette, seule ses propriétés physiques intrinsèques sont causalement efficaces, sa valeur monétaire est causalement inefficace. Alors maintenant, le problème est, je crois, clair. Il y a donc une tension entre le fait que les propriétés causalement efficaces d'une cause sont ses propriétés intrinsèques et locales, et le fait que le contenu mental est une propriété historique et extrinsèque d'un cerveau humain ou d'un état cérébral. Si cette tension est insurmontable, la tension entre l'exigence de localité pour les propriétés causalement efficaces et le caractère extrinsèque et historique du contenu ou de la propriété sémantique, si cette tension est insurmontable, alors le contenu d'une représentation mentale est fatalement privé de toute efficacité causale. Au nom de la doctrine que j'appelle le réalisme intentionnel, et pour défendre sinon la vérité, du moins la plausibilité de la croyance de certains des hommes qui ont cru mourir pour leurs idées, je propose d'essayer de surmonter cette contradiction. Alors, imaginons qu'une proie accomplisse des mouvements de fuite à l'instant T. Donc, je considère que le comportement d'une proie de ce genre est un comportement involontaire, mais j'admettrai qu'il est intentionnel, c'est-à-dire que les mouvements corporels de la proie sont produits par des représentations mentales. Ce comportement soulève trois questions possibles, pour simplifier. Première question possible, pourquoi la proie exécute-t-elle des mouvements de fuite à l'instant T, l'instant d'exécution des mouvements? Réponse attendue, réponse plausible, parce que à l'instant T-1, la proie a perçu un prédateur ou les indices d'un prédateur. Autrement dit, à l'instant T-1, la présence du prédateur a produit une représentation sensorielle dans le cerveau de la proie. Et à l'instant T, cette représentation, cette perception, a à son tour provoqué des mouvements de fuite de l'animal. Ça, c'est la question 1. Deuxième question. Quel est le mécanisme interne grâce auquel ou en vertu duquel la représentation du prédateur produit des mouvements de fuite de la proie? Réponse possible, les neurones moteurs dans le cortex moteur de la proie sont reliés aux neurones sensoriels de son système visuel, disons visuel. Lorsqu'ils reçoivent une instruction des neurones sensoriels, les neurones moteurs déchargent et ils commandent la contraction des muscles des membres inférieurs de la proie. Ce qui m'intéresse, c'est la troisième question, car c'est là que, si vous voulez, je vais essayer de faire apparaître le rôle du contenu dans une action, la contribution du contenu dans l'explication causale de ce que fait la proie. Alors là, je vais essayer d'être clair. La troisième question est la suivante. On peut la formuler de la manière suivante. D'où vient la coordination chez la proie entre la représentation sensorielle et les mouvements de fuite? Mais cette question maintenant est une question qui concerne la coordination entre un état représentationnel et des mouvements chez les animaux d'une espèce donnée. Alors, la réponse à cette question, me semble-t-il, va venir en deux grandes étapes. Premièrement, dans la compétition entre les ancêtres des proies de cette espèce et d'autres animaux qui étaient aussi les proies des ancêtres de leurs prédateurs, la sélection naturelle a favorisé les animaux qui avaient une coordination entre la perception d'un prédateur et des mouvements de fuite. Les animaux qui étaient dépourvus de cette coordination, qui par exemple demeuraient immobiles ou qui choisissaient de combattre leurs prédateurs, n'ont pas survécu à l'épreuve de la sélection naturelle. Deuxième étape de la réponse, la sélection naturelle n'aurait pas recruté la représentation sensorielle comme cause de mouvement de fuite chez les ancêtres de la proie si cette cause n'était pas le plus souvent une perception véridique ou un indicateur fiable de la présence d'un prédateur, c'est-à-dire d'un danger mortel. À la différence de la première question, pourquoi à l'instant T, la troisième question ne demande pas pourquoi un animal exécute un mouvement à un instant particulier, elle porte, si vous voulez, sur la structure générale du comportement des animaux d'une espèce donnée. Pourquoi le comportement des animaux, de ces animaux, est-il constitué par une coordination régulière entre un état perceptuel et une série de gestes corporels ? La réponse à la deuxième question, B, fait référence à l'organisation interne du système nerveux de l'animal, au circuit qui relie les neurones sensoriels et les neurones moteurs. La représentation sensorielle, si vous voulez, agit dans le système nerveux de la proie comme un interrupteur dans un circuit électrique. Lorsque le circuit est fermé, c'est-à-dire lorsque la représentation est activée, les propriétés électriques de l'interrupteur, c'est-à-dire un état cérébral de la proie, et elles seules contribuent au passage du courant électrique dans le circuit. Dans le circuit par lequel les neurones sensoriels envoient leurs instructions aux neurones moteurs, seules les propriétés neurophysiologiques des premiers contribuent à faire circuler l'influx nerveux. À la différence de la deuxième question, et c'est là que j'attire votre attention, la troisième question est franchement une question historique. La deuxième n'est pas historique. Nous savons que la perception du danger produit des mouvements de fuite et nous demandons pourquoi la représentation sensorielle a-t-elle été dans le passé, dans l'histoire phylogénétique de l'espèce à laquelle appartient la proie, était dans le passé recrutée comme cause de mouvements de fuite. Pourquoi n'a-t-elle pas été recrutée, par exemple, comme cause de mouvements de combat de la proie contre son prédateur? Ou pourquoi n'a-t-elle pas été recrutée comme cause d'une immobilité de l'animal? La réponse à cette question fait référence à l'action d'un mécanisme historique, la sélection naturelle, et elle confère une efficacité causale au contenu de la représentation sensorielle, puisque j'ai dit que la deuxième étape de la réponse consistait à soutenir que la sélection naturelle n'aurait pas recruté comme cause de mouvement de fuite chez les animaux de cette espèce, enfin chez leurs ancêtres, la représentation sensorielle, si celle-ci n'était pas un indicateur fiable ou une perception véridique du danger ou du prédateur. Donc il s'agit bien du contenu de cet état sensoriel. Dans un circuit électrique, une chose est de découvrir l'interrupteur qui commande le déclenchement d'une sonnerie, autre chose est de savoir pourquoi l'interrupteur a été relié à une sonnerie plutôt qu'à une ampoule électrique. Tracer le circuit qui relie l'interrupteur à la sonnerie, c'est répondre à une question ahistorique, non historique. Comprendre pourquoi un électricien a décidé de relier l'interrupteur à une sonnerie plutôt qu'à une ampoule, c'est répondre à une question sur l'histoire intentionnelle du circuit. C'est une analogie, évidemment, avec ce qui m'intéresse chez la proie. Mais on peut dire la même chose dans le cas de la troisième et de la deuxième question. Dans le mécanisme de production du geste moteur, seules les propriétés neurophysiologiques sont causalement efficaces. Mais le contenu de la représentation mentale contribue à expliquer le processus historique non intentionnel au cours duquel la représentation a été recrutée comme cause d'un geste moteur. Donc, c'est un peu schématique, mais si vous voulez, l'esprit dans lequel j'essaye de défendre l'idée que le contenu est une propriété causalement efficace est en distinguant clairement la question 2 de la question 3, c'est-à-dire le tracé d'un circuit qui relie des représentations des neurones sensoriels qui sont des représentations qui sont le substrat d'une représentation à des gestes moteurs, et la question qui n'est pas une question historique, et dans la réponse à la question B, à mon avis, le contenu ne joue aucun rôle. En revanche, lorsqu'on se demande pourquoi, comment une coordination entre une représentation et des gestes moteurs, pourquoi une représentation a été recrutée au cours d'un processus historique, l'évolution par sélection, a été recrutée par la sélection comme la cause de certains gestes moteurs, de certains gestes physiques, à ce moment-là, je pense que le contenu de la représentation, le fait que la représentation est une représentation d'un prédateur, contribue à expliquer, à répondre à cette question historique sur pourquoi ou comment est-ce que cette représentation a été sélectionnée ou recrutée comme cause de gestes moteurs. Il est temps de conclure. Je crois que je n'ai pas parlé plus de 50 minutes, mais je conclue en tout cas. J'espère que je n'ai pas parlé. Les sciences cognitives tiendront-elles leur pari? La connaissance de la connaissance sera-t-elle une connaissance scientifique authentique? Il est trop tôt pour le dire, à mon avis. Mais, à coup sûr, en déplaçant les frontières entre les sciences humaines et les sciences de la nature, les sciences cognitives rendent en partie, obsolète la querelle du dualisme méthodologique entre ce que les philosophes allemands appellent ou appelaient les Geisteswissenschaften, c'est-à-dire les sciences de l'esprit, et les sciences de la nature. Les sciences humaines ont pour vocation d'étudier le rôle des idées, ce que j'ai appelé dans cet exposé les croyances culturelles, dans la vie des hommes et des femmes. Or, les sciences cognitives nous aide, à mon avis, à mieux comprendre pourquoi ce que pense un animal contribue parfois à expliquer ce qu'il fait. Certes, une proie qui fuit son prédateur ne peut ni former des croyances culturelles, ni mourir pour une idée. Mais loin de nier les différences entre les actions et les pensées humaines et celles des autres animaux, à mon avis, les sciences cognitives contribuent au contraire à leur meilleure compréhension.
Vous pouvez descendre. Il y a des questions en bas déjà. Ça, j'en perds. Il y en a deux ici, je vois. N'en ai pas tout de suite. Ici, tout en bas. Voilà. Ici, puis ensuite madame. Hein.
Oui, d'abord, merci pour votre brillante conférence. Je voudrais vous poser une question. Prenons une loi biologique du type la sensation croît comme le logarithme de l'excitation. Alors, on dit dans ce cas, bon, par exemple, dans le cas de l'audition, on peut mesurer effectivement les effets d'une source sonore qui se rapproche ou s'éloigne de l'oreille de quelqu'un. Maintenant, prenons un autre cas. Prenons la frousse intense déclenchée chez un sujet, chez lui, la nuit, dans le noir, lorsqu'il entend une porte grincer. Bien. Alors, on pourrait quantifier cette frousse, peut-être. On ne pourra pas quantifier le grincement. Mais peut-on avoir un jour l'espoir ou l'ambition, justifiée ou non, d'étudier ce mécanisme, partie du grincement de la porte vers la frousse du sujet, peut-être sur le plan qualitatif, c'est-à-dire le trajet des circuits neuronaux amenant de l'un à l'autre, ou le nombre des neurones impliqués, etc. Et qu'est-ce que ça apporterait si on y arrivait ?
Je pense que vous pensez qu'on peut étudier le mécanisme de production, disons, de certaines émotions. La frousse, c'est une émotion d'un certain genre, en fonction de certains stimuli acoustiques. On peut très bien étudier, comme vous avez dit, au fond, c'est l'essence même de la psychophysique. Enfin, la loi psychophysique que vous avez mentionnée en est un exemple. Il n'y a pas de raison à prier de penser qu'on ne pourra pas, disons, étudier de manière objective ce genre de corrélation dans l'avenir. Et vous me demandez quel est l'intérêt de ça. Je pense que c'était assez évident quel est l'intérêt de ça. Si on arrive, si vous voulez, à trouver, à décrire exactement le paramètre dans l'environnement, disons, le stimulus auditif qui est responsable pour l'émotion, je pense que c'est un gain de connaissances assez important. Quelle raison avez-vous de douter de l'intérêt qu'il peut y avoir à découvrir ce genre de corrélation ?
Je pense qu'effectivement, il y a...
On sent que ça s'éternise. Pardon.
Non, je pense qu'il y aurait peut-être effectivement un intérêt, mais à ce moment-là, ça ne serait plus dans la quantification, qui est pourtant la base, a priori, de la connaissance scientifique.
De l'intelligence des lois, bien sûr.
Oui. Peut-être dans, si on arrivait à analyser le trajet, par exemple.
Le trajet
oui. dans l'analyse
du stimulus auditif.
Du stimulus jusqu'au... Bon.
Donc,
est-ce qu'on pourrait y arriver ?
D'accord, donc en fait, votre question porte sur l'intérêt ou non, intérêt, disons, de découvrir des seuils quantitatifs d'excitabilité, disons, c'est ça, plutôt que de découvrir le circuit exact par lequel le traitement de l'information auditive, dans ce cas, je pense, oui, non, je ne sais pas très bien, on va dire, les émotions sont des états compliqués que les sciences cognitives commencent à étudier. Les neuropsychologues ont fait des découvertes extrêmement intéressantes. Il y a, par exemple, le livre de Damasio, qui est une une étape sur cette voie qui est très intéressante. Au fond, votre question, c'est le contraste entre des découvertes de corrélation quantitative, où on peut trouver vraiment des seuils d'excitabilité, par exemple, d'une réponse, versus, par opposition, à la découverte d'un circuit dans le cerveau qui traite une certaine information. C'est ça qui est intéressant. Oui, je pense... D'accord. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui.
Je m'intéresse d'une manière tout à fait profane à l'éthologie. Et je voulais savoir quelle était la place, à la lumière de ce que vous dites, l'éthologie me paraît occuper une place importante dans les sciences cognitives,
oui.
Surtout au niveau de ce que vous avez dit dans votre conclusion, à savoir de ce que l'étude du comportement animal et des réactions neurophysiologiques étudiées chez les animaux peuvent nous apporter, et surtout que je crois que l'éthologie est difficilement plus difficilement applicable aux humains, aux animaux humains, puisqu'il est évident qu'on ne peut pas mettre des hommes en laboratoire pour étudier leur comportement, ou plus difficilement, sans toucher à leur subjectivité. Et je voulais avoir votre opinion là-dessus. Voilà.
Alors, vous avez raison, je pense que l'éthologie, c'est très important. Alors, une toute petite réserve, en fait, beaucoup de travaux éthologiques importants ne sont pas des travaux de laboratoire, mais des observations faites dans des situations écologiques valides. Il y a, par exemple, des travaux extrêmement brillants qui ont été menés par des psychologues animaux qui s'appellent Cheney et Seafarth sur des vervettes, des singes vervets dans certaines forêts africaines et sur les systèmes utilisés pour communiquer des dangers, par exemple. Ça, c'est un exemple. Il y a des travaux très importants qui ont été faits sur les capacités de calcul, sur les capacités de traitement d'information, sur le raisonnement chez les chimpanzés, ça, vous connaissez, chez d'autres singes. Ça, ce sont des travaux, alors plutôt des travaux en laboratoire, sur les capacités, par exemple, numériques chez les singes. L'intérêt de ces découvertes, en fait, c'est d'essayer de nous renseigner sur ce que nous pouvons avoir en commun, nous, les hommes, et une tradition fondamentale en sciences cognitives, se donne pour programme de recherche d'essayer de comprendre quels sont les aspects, les dispositifs cognitifs que nous, les humains, nous partageons avec d'autres animaux, que nous pouvons explorer d'une manière assez objective, soit par des méthodes éthologiques, soit par des méthodes malheureusement plus intrusives qui soulèvent éventuellement des questions morales et éthiques, lorsque, par exemple, on introduit des microélectrodes dans le cerveau d'un singe macaque, par exemple. Mais, en tout cas, sur la question fondamentale est qu'on a des méthodes qui nous permettent d'aborder d'une manière objective un certain nombre de capacités de perception, éventuellement de raisonnement, de formation de représentation, de formation d'émotions chez des animaux non humains. Il est très intéressant de savoir ce que nous, les humains, partageons avec ces autres animaux. Et une des questions évidemment fondamentales est qu'est-ce qui est propre à la cognition humaine, qu'est-ce qui est propre à la pensée de l'homme. Et ça nous amène très vite à la spéculation sur le fait que probablement le rôle du langage, au sens où les linguistes disent que nous avons la faculté de langage, a introduit probablement une rupture dans la continuité cognitive entre les animaux qui n'ont pas le langage et la cognition humaine.
Je trouve assez troublant l'exemple que vous avez donné sur Vermeer. La copie reproduirait parfaitement l'original.
Oui, c'est vrai.
Que resterait-il du génie de Vermeer là-dedans ?
Alors écoutez, c'est une très bonne question. Moi, j'ai proposé cet exemple. Je pense je ne sais pas si tous les physiciens, peut-être des physiciens ne seraient pas d'accord. J'ai supposé que c'était plausible d'envisager qu'un appareil photographique, un appareil qui, disons, réagit causalement à un processus physique qui est le réfléchissement des photons, disons, ne pourrait être dans une situation de ne pas pouvoir détecter de différence entre l'œuvre géniale accomplie par l'auteur, le créateur, et une copie parfaite. J'imagine un copieur, un faussaire idéal, si vous voulez, qui, lorsque on place les deux œuvres exactement au même endroit, exactement exposées à la même absorption de photons, si vous voulez, au réfléchissement des photons, réagit exactement de la même manière. Et effectivement, alors on peut discuter, peut-être que des physiciens diraient, mais vous faites une idée de ce qu'est un objet physique qui n'est pas conforme à la physique contemporaine, parce que, au fond, l'histoire de l'objet fait partie de des propriétés physiques. Et je suppose dans ma description du cas qu'on peut découpler les propriétés strictement physiques des objets qui, par exemple, peuvent être étudiés par un appareil qui mesure le réfléchissement qui est sensible au réfléchissement des photons, on peut analyser ça indépendamment de l'histoire des deux objets. Et c'est vrai que j'ai imaginé cet exemple afin de faire valoir le fait que l'authenticité de l'œuvre, l'authenticité de l'objet, est une propriété qui, dans un certain type de processus causal, ne joue aucun rôle. S'il est vrai que l'appareil de photographie ne détecte aucune différence entre l'œuvre originale et sa copie.
Il y aurait donc une différence autre entre les deux œuvres que l'expert lui pourrait détecter.
Alors, oui ou non. Enfin, j'imagine une situation métaphysiquement un peu étrange dans laquelle, alors qu'il y a une différence objective entre les deux œuvres, une différence objective mais historique, éventuellement, cette différence pourrait parfaitement rester indétectable. Elle pourrait être, en fait, les deux œuvres seraient deux objets distincts, à la fois numériquement distincts et distincts par le fait que l'un possède la propriété d'authenticité et l'autre non. L'un a été dans la relation causale avec Vermeer, son cerveau et sa main, l'autre non. Mais j'imagine une situation en quelque sorte philosophique dans laquelle cette différence reste non détectable, non détectée et peut-être non détectable. Mais existante, tout à fait.
Oui, c'est une conférence d'introductif sur les sciences humaines, ici.
Mais pardon, excusez-moi.
Et en fait, vous avez un exposé qui parle essentiellement de behaviorisme. Le behaviorisme, c'est américain, c'est une entreprise réductionniste, causale, etc. Je ne vais pas la critiquer, je suis moi-même physicien. Mais ça évacue le sujet, comme Descartes l'a projeté quand il a dit, quand il parle d'expérience, c'est-à-dire l'expérience ne dépend pas de la personne qui fait l'expérience. Alors, est-ce qu'il n'y a en sciences humaines que des sciences qui évacuent la question du sujet? Autrement dit, est-ce qu'on est obligé d'évacuer le sujet pour pouvoir faire des sciences humaines?
Alors, je vais répondre. Alors, cet exposé n'est pas un exposé qui porte directement, mais indirectement sur les sciences humaines, puisque j'ai parlé de sciences cognitives, qui était le sujet qu'on m'a donné, philosophie et sciences cognitives. Mais je suis en total désaccord avec vous sur la première chose que vous avez dite, à savoir que cet exposé est marqué par le behaviorisme. Les behavioristes sont des gens qui veulent se passer de représentation mentale. Toute explication behavioriste d'un comportement est du type stimulus-réponse. Au principe de mon exposé, j'ai voulu introduire comme rôle, comme, si vous voulez, variable intermédiaire fondamentale, les représentations mentales qui, elles, ne sont pas des états observables dans le comportement. Je fais une distinction fondamentale entre des représentations que j'ai appelées motrices, des représentations que j'ai appelées perceptuelles ou sensorielles, des représentations que j'ai appelées conceptuelles. Ce genre de distinction est totalement inacceptable pour un behavioriste.
C'est pas le sens de ma question. Si je m'adressais plus aux philosophes que vous êtes de formation, et donc aux deuxièmes versions de ma question,
oui.
À savoir, est-ce qu'il n'y a de sciences humaines que des sciences humaines qui évacuent
pas
la question
tout.
Du sujet?
Pas du tout.
C'est ce qu'on vit, il me semblerait, quand même en France, au niveau universitaire. Donc,
je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, mais... Encore une fois, si vous voulez, si je devais, en un mot, je vais pas. Votre question est très complexe, si vous voulez, la question telle que vous venez de la formuler. Au fond, la question qui m'a intéressé, c'est simplement essayer de comprendre les caractéristiques particulières des explications non behavioristes en psychologie, où on essaye d'expliquer un comportement, c'est-à-dire un certain type de geste physique, en invoquant des représentations. Alors, si vous voulez, le point qui a retenu mon attention, c'est que, comme je le crois, les explications psychologiques, comme les explications dans les sciences naturelles, a l'ambition de fournir des explications causales. La psychologie a l'ambition de fournir des explications causales. Ce qui est l'enjeu de la discussion, l'enjeu philosophique, si vous voulez, ou on pourrait dire d'un mot prétentieux épistémologique, c'est que ces explications causales dépendent des propriétés sémantiques des représentations. Elles font intervenir des représentations. Donc la question fondamentale, une question épistémologique ou philosophique importante, c'est de savoir si une explication causale peut reposer sur des représentations, si des effets physiques peuvent être causés ou produits par des représentations et même par le contenu des représentations. Ça n'est pas exactement la question du sujet, mais vous pouvez formuler plus clairement ce que vous appelez un sujet.
Alors justement, je viens au sujet.
Où êtes-vous? Pardon.
Justement, j'en viens au sujet.
Oui.
Moi, j'ai l'impression que les sciences cognitives étudient des instruments, qui sont des instruments tout simplement très perfectionnés, tout ce que vous voudrez, instruments de mémoire, instruments de perceptif, instruments moteurs, etc.
Je suis tout à fait d'accord.
Et qu'on oublie l'affectif. On oublie l'affectif, et finalement, quand vous avez dit rejet du dualisme cartésien car matérialiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, disons, peut-être que Descartes n'a pas été suffisamment compris, en ce sens que Descartes, pour son époque, j'entends, pour son époque, il mettait le jeu, peu importe que ça soit ridicule aujourd'hui, dans la glande hypophyse, donc il avait un aspect, comment dirais-je, il avait une compréhension finalement matérialiste du jeu. Mais il ne supprimait pas le jeu. Or, quand on parle de fonction, fonction veut dire au service de. Et les fonctions cognitives sont au service d'un jeu, qu'on le veuille ou non. Et ce jeu, semble-t-il, avec les connaissances qu'on a actuelles, serait le support matériel de ce jeu serait le système limbique, précisément, qui est le support des émotions. Autrement dit, on verrait l'être humain ou animal, d'ailleurs, ça ne change rien, comme une boule d'émotion, disons, entourée d'instruments qui ont des fonctions cognitives. Je ne sais pas si vous souscrivez à ça.
Merci. Écoutez, ce que vous dites est très intéressant. Il y a évidemment, vous avez parfaitement raison de faire le lien entre votre intervention et l'intervention précédente. Il y a un sens, si vous voulez, c'est vrai que l'intérêt des sciences cognitives et leurs limites, car au fond, si vous voulez, je crois que je souhaite non seulement faire valoir l'intérêt ou l'importance aujourd'hui de cette démarche qu'on appelle les sciences cognitives, mais je crois qu'il faut aussi reconnaître les limites de cette démarche. Et vous avez parfaitement raison. Cette limite, qui est aussi son intérêt, mais c'est un problème, je crois, qui est vrai en sciences en général. C'est-à-dire qu'une démarche ne peut aboutir à des résultats scientifiques ou à peu près scientifiques, c'est-à-dire à des résultats à peu près exacts, qu'à condition de procéder par de sévères idéalisations, c'est-à-dire à condition de simplifier la réalité. Vous dites, je crois que vous avez parfaitement raison, je ne sais pas si le mot instrument pour la mémoire ou pour le raisonnement ou pour la perception, si le mot instrument est le meilleur mot, enfin, ça n'a pas d'importance, ce sont disons, des facultés ou des capacités, on peut les étudier comme des capacités spécialisées et relativement indépendantes des autres capacités, c'est ce que font les chercheurs en psychologie ou en neurosciences, ils prennent un type de faculté, ils essayent de faire des généralisations sur ces facultés, et c'est vrai qu'en un certain sens, ils ont tort de prendre cette faculté comme quelque chose qu'on peut isoler, qu'on peut abstraire d'autres choses. Et au fond, je crois que, monsieur, quand vous parliez du sujet, on pourrait dire, peut-être à la place du sujet, on pourrait employer le mot « personne ». Qu'est-ce qu'une personne ? Il est... Non, vous ne pensez pas qu'on peut employer le mot « personne ». Mais, si vous voulez, je crois, en tout cas, je serais entièrement d'accord avec, indépendamment de Descartes, je pense que l'entité à laquelle on attribue les facultés comme la mémoire, comme le raisonnement, comme la faculté de langage, ça n'est pas une personne au sens juridique, par exemple, du mot, comme le genre d'entité qui nous intéresse lorsqu'on est... on étudie le droit ou qu'on va dans une mairie et qu'on va à l'état civil, ce sont plutôt, si vous voulez, des organismes. Et de ce point de vue, c'est vrai que les sciences cognitives supposent qu'il y a dans le processus de pensée de l'être humain quelque chose qui fait que l'homme et l'animal ont des points communs. On n'attribue pas de... Le terme « personne » est quelque chose qui ne s'attribue pas, ne se prédique pas d'un animal, mais seulement d'un être humain. Dans l'état actuel des choses, la personne ou la personnalité n'est pas quelque chose qui est vraiment l'objet distinctif de l'étude des sciences cognitives. Mais au fond, je crois que vous dites aussi quelque chose de très important lorsque vous parlez du rôle fondamental des émotions. Je crois que les émotions sont des états qui ont été... peu étudié jusqu'à présent par les sciences cognitives. Je crois que la neuropsychologie aujourd'hui, commence à étudier beaucoup la formation des émotions. Une des idées, à mon avis, je m'arrête, parce que je pense qu'il faut que je m'arrête, n'est-ce pas ? Les plus intéressantes sur l'approche neuroscientifique, en tout cas neuropsychologique des émotions, c'est l'idée de Damasio, c'est l'idée fondamentale que, contrairement à la grande tradition philosophique qui vient de Platon, Descartes, etc. Les émotions ne sont pas fondamentalement des états qui perturbent la rationalité, mais au contraire, que les émotions sont des conditions nécessaires à la rationalité. Ça, c'est vraiment une idée très intéressante que vous trouverez dans le livre de Damasio qui s'appelle « L'erreur de Descartes », justement.
Merci beaucoup.